à tous, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Et qui est aussi...
Gression.
Putain. Oh, qui est aussi la pistache des podcasts natifs français. Et si vous n'avez pas cette ref, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent, l'épisode numéro 4, si je ne me méprends pas. Je suis en compagnie de Kalindi, Cédric et Mimi, l'équipe est au complet.
Et oui.
Et oui, ça vous êtes plaisir. En forme.
Oui.
Cédric a une perruque.
Mimi, pas trop.
Alors, je suis pas la grande forme, mais je vais tout donner.
Moi vous remarquerez que Mimi, elle a toujours un truc. Hein. La dernière fois, elle devait bouffer des ramen. <C'est
fatigué. rire> Ça va, meuf, oui. Tu vas voir le premier épisode où tu seras pas là. On va mal parler de toi pendant
une heure. Mon gros kiff, c'est l'absence de Kalindi.
Alors moi, je vous préviens, je risque de me moucher dans mon micro, car je suis malade. Vous pouvez l'entendre, quand je ris, il y a des glaires. Voilà. C'est cadeau, c'est pour moi.
Le podcast sexy.
J'espère que vous avez un casque d'extrêmement bonne qualité pour bien entendre le mucus.
Je vais prendre des pauses, je vais faire des temps morts dans la discussion pour me moucher aisément sur mon micro. Donc, je suis aussi en pleine forme comme Mimi. Je suis un peu fatiguée. Je voulais vous dire un truc sur tous les retours qu'on a eu sur le dernier épisode. Il y a quand même quelqu'un qui nous écoutait en Islande.
Et je
c'est
oh
ouf,
cette classe.
En road trip en Islande, voilà, en voiture.
Ah, donc, c'était pas en islandais ça,
Non.
Attends. Je suis pas sûr qu'ils, tu vois, ils parlent pas des masses français, les Islandais pur jus. Bon, en tout cas, bonjour l'Islande, on est ravis d'être dans la place, au volcan.
Hello Iceland.
Hi Iceland.
Arrête de nous donner des infos sur les auditeurs et auditrices parce qu'après, tu vois, ça part en couille.
C'est n'importe quoi.
Fait croire qu'on n'a pas de public.
Que personne ne nous écoute.
Est-ce que les auditeurs et auditrices ont pris une décision concernant ma vie de bolos?
Non.
Non, toujours, ça fait 5 épisodes qu'on fait le même sondage.
Non, mais je veux dire, le sondage n'a jamais vraiment été fait.
Du coup, je pensais que c'était...
Mais je pensais qu'on avait acté le fait qu'on en faisait un peu dans chaque épisode, puisque de toute manière, Kalindi est là.
Alors, spontanément, c'est vrai que ça vient tout seul.
Voilà, et qu'on pourrait en faire un de temps en temps.
Tu dis rien, Kalindi.
Mais parce que j'en ai même pas cette semaine, tu vois.
Pas encore. Moi, j'en ai
rien arrivé de nul.
Ça viendra dans le fil de la discussion.
C'est clair, tu vas t'en souvenir.
Et donc, de temps en temps, on fera un épisode bonus, ma vie de bolosse,
voilà,
si on a une belle bolosserie à raconter, je pense. Éventuellement.
Moi, j'en ai une qui m'est arrivée ce midi.
Ah !
Ce midi, on racontait nos histoires de quand on était des bolosses, quand on était jeunes, et moi, je disais que ça m'arrivait de mendier sur les rues, sur les marches de la mairie de ma petite ville du 93, quand j'avais rien à faire avec mes potes. Et du coup, on traînait, on demandait des pièces aux gens.
T'avais
et
quel
donc,
âge ?
J'avais 14 piges, un truc comme ça. Peut-être même un peu moins. Et du coup, Léa Castor s'est foutue de ma gueule en me disant « Mais en plus, à ton époque, tu devais mendier en francs. » Et je lui ai dit « mais ferme bien ta gueule, bouffonne. Je mendie en euros. »
Tu n'as pas du tout dit « ferme bien ta gueule, bouffonne. »
J'ai pas dit « ferme bien ta gueule, bouffonne. » Mais je lui ai dit « Non, c'est pas vrai, je mendie en euros. » Et après...
Non, c'est pas vrai.
Et après, j'ai fait le calcul dans ma tête et il s'avérait que effectivement, c'était en 97 et donc j'étais vraiment en train de mendier en francs. Tout à fait. Et je me suis senti old as fuck à ce moment-là.
C'est une belle prise de conscience.
Ben non, c'était plutôt une sale prise de conscience qui m'a renvoyé à ma propre mortalité et à toutes ces choses auxquelles tu n'as pas envie de penser jamais dans la vie.
Le fait de procréer, bah, coup, par exemple, t'as pas donné un indice sur le fait que tu commençais à attendre un âge.
Non, il était
avancé.
Tu étais concentré sur la vie, non, et pas sur ce qu'il y avait à la fin.
Exactement.
Je tiens quand même à préciser que Cédric nous raconte ça en portant une perruque rose sur la tête et franchement, ça donne un côté encore plus intéressant à cette anecdote.
C'est la même que Nathalie Portman dans Closer. Ouais.
Exactement.
Avec une frange un peu ratée, par contre.
Ouais. Ils ont coupé la
frange.
Je pense
que quelqu'un a essayé.
Je sais que tu ressembles à Samantha Oops.
En vrai, Fab avec une perruque blonde, c'est tellement Samantha Oops, ils ont la même tête.
Oh mon
on
Dieu.
On mettra une photo dans la description. Ouais.
Non, mais attends, maintenant que j'y pense,
vraiment, ils ont la même gueule.
C'est ça, hein. Putain, c'est chaud.
Je me souviens pas.
De Samantha Oops et Chantal.
Je me souviens, ça, j'avais un DVD, on m'avait offert un Noël.
Beau cadeau.
Ça pourrait rentrer dans la catégorie ma vie de bolos.
Ah, oui,
tous les cadeaux nuls qu'on m'a offert.
On parle de celui que tu m'as offert avant-hier.
Oui,
le single de Roméo et Juliette.
Tu es fan de Roméo et Juliette, écoute.
C'est vrai, mais j'ai quand même une préférence pour avoir une fille, une petite opale, deux yeux qui brillent, une peau si pâle. Mais bon, c'est...
Donc Roméo et Juliette, la comédie musicale.
Oui.
Ce week-end, j'étais à Emmaüs. Et bon, bah, y a des disques. Et j'aime chercher des disques de qualité, de type l'album Survivor de Destiny's Child. Ou le single de ces soirées-là de Yannick.
Mais en plus, c'est un single, le truc que t'as récupéré.
Bah,
je savais même pas que c'était sorti en single. Il y avait des singles de la comédie musicale. De,
bah attends, c'était bah ouais. Un carton.
Ah ouais, c'était
en plus,
fou,
c'est
Damien Sargue.
C'est le morceau le plus connu. Donc,
oui, tout à fait.
Non, on fait la fête après la jour, jour mais... après jour, après nuit.
En fait, c'est comme ça.
C'est ça les rois du monde. Oui,
oui. L'air, c'est ça. Les paroles, non. Mais oui.
C'est pas nous, on fait la fête nuit après nuit, jour après jour, on vit la
c'est
nuit. Non, ça
y a l'idée,
ça.
Y a on y est presque.
On n'est pas sur les mots
du monde.
Très bien. Écoutez, je pense qu'on peut conclure cette intro qui vraiment est beaucoup trop longue.
Et c'était pour toi, l'Islandais.
On commence. Est-ce qu'on commence cette émission par les gros kiffs ou est-ce que ça vous déstabilise trop et on commence par les mini kiffs?
Moi, je m'en fous. Sachant qu'en vrai, j'ai hésité entre qu'est-ce qui sera mon gros kiff et mon mini kiff. C'est un peu.
Je trouve que c'est le kiff.
Oh, papa.
C'est la catastrophe. Tu fais une vanne et qu'il n'y a que Cédric qui te soutient. C'est,
c'est
bon
que t'es vraiment dans la merde. Ouais.
Cette vanne, elle est nulle à chier. Ah. Je t'aime fort, Cédric. Mais tu fais vraiment. T'as vraiment.
Ouais, moi, je suis
de
vraiment
darme,
le filet de sécurité pour. Non, vraiment, c'était un hop 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 de pitié, hein, Mimi. Ne l'interprète pas comme
un. Mytho !
C'était histoire que tu sois pas toute seule. C'est vraiment par gentillesse, quoi.
Bon, on s'en fout, en fait. De toute manière, au final, on a deux kiffs chacun. Et puis, que ça soit un mini ou un gros, voilà. C'est.
Non, mais pareil. Attends, vas-y, changeons pas tout. Allez-y.
Non, vas-y, Louise, tu commences par ton mini-kiff.
Ah oui, ça fait longtemps.
Ah, je commence par mon mini-kiff formidable. Je sens qu'il y a une personne dans cette pièce qui va apprécier. Mon mini-kiff, c'est que Kalindi s'est enfin lancée sur Instagram.
Mais c'est mon mini-kiff aussi. Oh, oh merde.
Donc Kalindi, qui depuis qu'elle est arrivée chez Mademoiselle, c'est-à-dire bientôt 8 mois je pense, un truc dans le genre.
10 mois ouais.
Nous rabâche sans cesse qu'elle veut devenir influenceuse.
Sans jamais rien poster.
Non, c'est-à-dire qu'on lui a créé son compte Instagram.
De force.
De force, que j'ai appelé Kalindi la BG.
Ce qui était un très bon nom.
Et qui était un excellent nom, et elle a décidé de le changer car c'est une personne qui veut
Daniel
être voilà, sous son vrai nom. Écoutez, elle fait ce qu'elle veut. Et ça y est, elle a commencé à poster parce qu'elle était en vacances à Tokyo, au
et
Japon.
Kyoto aussi.
Et Kyoto, ouais. Oui, pardon. Et du coup, elle a commencé à poster des photos, et cette personne est con. Et c'est si
ah
drôle.
Oui.
Ah là là, je.
Ah oui. Merci.
Et donc, elle poste des photos très premier degré, et elle met des comment ça s'appelle
des commentaires
des légendes des commentaires totalement de la pire personne
hashtag pire personne
hashtag pire personne
oui tout à fait
et voilà ça me fait beaucoup rire
oh,
et
merci,
aujourd'hui on a fait une story excellente de moi qui sort à la part de mon vagin
je l'ai vu
voilà
c'est bien non c'est très quali alors parce que moi mon mini kiff c'est les stories Instagram une chose nouvelle
ah bah oui
qui existe tu découvres le temps. Et en fait, voilà, j'ai découvert ça avant-hier, quand j'étais avec mon amie Tatiana, qui se trouve ne pas avoir de cheveux, et je lui ai demandé un élastique à cheveux, alors qu'elle n'en avait pas. Du coup, bref, on a beaucoup ri, et je dis, bah tiens, prenons une story de ce moment. Et ça nous a beaucoup fait rire. Et la deuxième de mes stories, c'est en fait Louise qui sort un lapin en papier, qui fait semblant de le sortir de son vagin, et j'ai écrit « Les chapeaux de magicien c'est ringard, sortez plutôt des lapins de vos vagins ». Voilà, c'est...
Très bon, ça.
Voilà, je ne sais pas trop pourquoi. Ah, c'est Louise qui a...
Ça nous a fait beaucoup rire la pause cigarette. Du coup, elle a décidé d'en faire une story.
C'est vrai.
Mais voilà, je suis très heureuse que Kalindi ait rejoint les gens du clan d'Internet et de la voir galérer sur les stories en disant « Ah, mais attends, j'ai appuyé sur ce truc et je n'y arrive pas !» Donc n'hésitez pas à aller suivre Kalindi sur Instagram. Car elle aura bientôt au moins 100 000 followers.
Ah là là, bientôt, moi je mets sur 3 jours là, à peu près pour atteindre ce score.
Exactement.
Quel est donc ton nom Instagram que les gens puissent
Alors c'est Kalramphul. Kalramphul. En tout cas, merci beaucoup à Louise qui est la meilleure CM et qui est la personne qui fait toujours ma promotion et je suis ravie d'être son amie.
Oui, tout à fait.
Et voilà, je l'aime beaucoup. Demain, nous allons poser ensemble pour une séance photo.
Meilleur.
Répétez au moins avant de mytho.
C'est clair.
Vous avez vu la tête de Louise pendant qu'elle lui disait ça, genre what?
De quoi tu parles? Voilà, c'était mon mini kiff, c'est qu'Aline dit de manière générale, mais sur Instagram,
oh,
ça me fait plaisir.
Oh là là, merci. Je suis jamais le kiff de personne, alors que Cédric, t'as été mon kiff la dernière fois.
Ah, c'est vrai.
La semaine prochaine, on fera Mimi, et puis on va tourner à chaque
fois. Pas obligé, hein. J'ai un peu de spontanéité quand même. Ce podcast,
on va s'inscrire pour faire des tours sur un tableau.
Un autre de mes kiffs, emmerder Mimi à longueur de temps.
Oui, c'est vrai.
Oui, beaucoup en ce moment, hein. Je sais pas pourquoi, parce que donc Louise est en super forme. Là, elle est un peu malade, mais sinon, elle est en super forme ces temps-ci. Et un matin, elle s'est levée en se disant « Je suis un sup, j'ai envie d'être un sup avec spécifiquement Mimi. » Donc, régulièrement, à peu près tous les jours, tous les deux jours, il y a quelques moments où Louise s'installe à côté de moi avec sa petite tête là de ravie de la crèche et me fait chier. Voilà. Généralement, en mettant « Il fait beau » d'Orelsan et Stromae, pourquoi je l'ai dans la tête. Ce qui marche quand il fait beau et quand il fait pas beau, et finalement. Ou qu'est-ce que t'es venue faire tout à l'heure?
Je t'ai mis « Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ?» Jonathan.
Voilà. On est le 17 mai 2018 aujourd'hui. Hein. Notez bien.
Sachant que c'est un des trucs que Mimi avait mis dans sa vidéo de trucs à laisser en 2017. Du coup, je me suis dit que ça allait lui faire plaisir de rentrer ça en 2018.
Putain, mais t'as tellement raison, t'as tellement trouvé la meilleure chose. Toutes les semaines, on va prendre un truc qu'elle a dit qu'il fallait laisser en 2017 et on va lui hurler dans les oreilles.
C'est pas une vidéo si longue que ça. Hein. Ah, ça va vous faire un mois, je pense. Il n'y en a pas tant.
Oui, mais tu sais, il y a des spacitos.
Et il me semble que le dernier élément, c'est le harcèlement sexuel. Donc, il y aura une semaine où vous allez me harceler sexuellement. Parce que j'avais dit qu'il fallait arrêter. Ça va être bien.
Ce podcast était vraiment extrêmement bizarre et étonnant aujourd'hui.
Le podcast feel good.
Faut faire un jingle. Le moment sympa.
Oui.
En vrai, on s'aime bien.
Il faut vraiment qu'on fasse des jingles plus, hein, de manière globale. Oui.
Ouais, avec notre voix, là, comme ça, comme on fait. Ouais. C'est bien.
Mais il faut que tout le monde se taise, parce que la dernière fois, Cédric, il en a fait un et j'ai pas pu l'exploiter, quoi. Je peux pas le copier-coller et le garder en fichier secret.
Fichier secret ?
Je sais pas.
C'est quoi le concept ?
Est-ce que...
Un dossier ?
Mais je sais pas, j'ai aussi...
C'est un concept où juste les gens disent des suites de mots en espérant que ça marche. Toi, tu dis on va faire une séance photo, pas du tout. Elle parle de fichier secret et on va voir si ça passe. Écoutez, si personne ne réagit...
Je sais pas, je cherchais un mot pour fichier et j'ai dit secret derrière, ça n'avait pas de sens.
Oh, malade, ça n'avait aucun sens.
Allez, bon. Et toi alors, Cédric, quel est ton mini-kiff?
Je suis en train de boire. Mon mini-kiff, c'est un mini-reportage diffusé par la chaîne Strip qui s'intéresse aux street artistes et donc qui suit un copain qui s'appelle Codex Urbanus, dont la grande passion, c'est de dessiner sur les murs de Paris... dans la nuit.
Qu'est-ce que t'as à te péter de rire, genre
ça devient...
Elle rit parce qu'il y a Anus dans le nom.
Ok, donc Codex Urbanus. Codex Urbanus, c'est mon copain. Arrêtez. Il est très fort et donc à la nuit tombée, il dessine sur les murs de Paris des animaux étranges, genre des hippocampes. Si, c'est des hippopotames avec des corps d'hippocampe et des trucs comme ça.
Okay.
Et donc, il dessine ça un peu partout avec un trait un peu genre, vraiment dessin d'encyclopédie. Il leur file des faux noms en latin avec des numéros de figure comme si c'était un vrai codex.
Ah, trop bien.
Qui se dessinait dans la ville, quoi. Et donc, il fait ça depuis, 5-6 ans maintenant. Il a fait quelques expos. Il avait participé à un truc très marrant, Dali fait le mur, avec que des street artists qui reprenaient des trucs de Dali. Et donc, il y a ce mini reportage qui dure 5 minutes. Donc de la chaîne Strip qu'on peut retrouver sur Facebook et c'est une nuit avec Codex Urbanus. Donc,
ah trop bien, donc ils le suivent
Pendant la nuit, on le voit dessiner, on le voit expliquer un petit peu aussi le concept de ce truc-là. On le voit parler de street art et de la place du street art dans l'art, c'est-à-dire il n'y en a pas, mais il faudrait qu'il y en ait.
Ouais.
Et on le voit aussi, c'est rigolo parce qu'il y a un petit garçon à un moment dans le truc qui le regarde et puis qui imagine une histoire sur l'animal qu'il est en train de dessiner et ça c'est quand même assez marrant.
Et il fait ça à visage découvert ?
Il fait ça à visage découvert, il a une grosse barbe. Il en a fait aussi pas mal... En fait, je l'ai rencontré à mon premier Burning Man il y a 4 ans.
Mmh. Non mais le gars, quoi !
Et en fait, c'est un Parisien, on s'était rencontrés avant d'y aller. Et donc, il a fait des trucs géniaux là-bas qui doivent être sur sa page Facebook quelque part. Des trucs bien stylés avec des espèces de créatures en or... en gris sur un fond doré, genre vraiment, on dirait des vieilles illustrations de Lovecraft, c'est assez trippé, quoi. Ah ouais, c'est trop
cool.
C'est trop trippé.
Et on peut trouver sur quel... où ça, le...
Sur sa page Facebook Codex Urbanus, où il prend en photo à peu près tout ce qu'il fait. Faut suivre son actu, en fait. Il fait pas mal de choses un peu rigolotes. Donc, sur sa page Facebook Codex Urbanus, vous trouverez de nombreuses œuvres et de nombreuses informations.
Alors, attends, du coup, il est à visage découvert.
Ouais.
Et il fait ça, c'est sur des murs Lego ou il a le droit de graffer?
Non,
ben
non,
ou...
c'est pas vraiment légal de dessiner sur les murs à Paris. Après,
ben
c'est
non, je sais,
en
mais
plus,
en fait, il y en a qui sont... Enfin, il y en a, c'est des œuvres ouais, après, commandées ouais. et tout, mais...
Non, le
mais
but...
Mais du coup, il tag, enfin, il graffe...
Exactement, il dessine vraiment sur les murs de la ville. Ce qui est... voilà,
visage découvert, c'est plutôt ouais. ballsy.
Ouais, après il utilise pas son vrai nom quand il parle sous...
Il s'appelle pas vraiment Anus.
s'appelle... Son prénom c'est Codex Urbe, son nom de famille c'est Anus. Monsieur Anus, non mais vous pouvez m'appeler Codex Urbe. C'est compliqué votre vie.
Kaline dit je suis pas fière de toi, on avait réussi à tenir tout le long, sauf notre dérapage au début mais on était pas prêtes. Voilà,
tu nous as relancé.
Et donc voilà un petit peu l'histoire de ce truc-là. Je vous invite à découvrir ce jeune homme qui est passionnant.
Qu'on enregistre l'épisode de Laisse-moi kiffer après Burning Man, parce que tu y retournes cet été.
Oui.
J'ai tellement hâte de t'entendre parler de Burning Man 2018 dans Laisse-moi kiffer.
Mais attends, tu laisses ton enfant à quelqu'un ?
Ben en fait, je laisse...
Non, ouais. Il l'emmène.
Ou tu l'emmènes, ça serait trop bien.
Non, je laisse mon enfant à ma meuf qui est pas du tout Burning Man.
Ah, ok. Mais tu vas avec qui,
ben
du après... coup ?
Ben, j'y vais sans doute avec Codex Urbanus. Tous mes burns, je les ai faits avec lui, donc on s'est toujours très bien amusé.
Ah, donc attends, au Burning Man, tu as été tout seul la première fois ?
Non, j'y étais déjà avec lui.
Ah, ok, d'accord.
Ouais, c'est un pote de Paris que j'ai rencontré dans l'organisation du truc.
D'accord.
Pendant que je m'organisais, et on y est parti ensemble, d'accord. Et c'était une grande rencontre de ma vie.
Ça doit être complètement fou, le Burning Man. Moi, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps. Et il y a quelques mois, il y a eu un reportage dessus qui est passé sur je sais plus quelle chaîne à la télévision. Et ma mère l'a vu et on est allé déj ensemble le midi et elle m'a dit oh, j'ai vu un truc complètement dingue, il faut absolument qu'on aille au Burning Man. Et j'étais là, what?
Oui, vas-y avec ta mère.
Oui. J'étais là, tu vas aller au Burning Man, mais t'as compris ce que c'était et tout. Elle m'a dit ouais, on pourrait louer une grosse bagnole ou plutôt une caravane, tu vois, on mettrait des bidons d'eau et tout, et puis on se baladerait d'un lieu à l'autre en vélo et tout pour aller écouter du son. J'étais là, mais enfin, tu kiffes Véronique Sanson, ben, tu vas pas kiffer le Burning Man, tu vois, on est sur. On n'est pas sur les mêmes artistes, quoi. Voilà, mais moi j'adorerais, c'est un de mes rêves d'aller au Burning Man.
Il y a un peu tout en termes de son au Burning Man. T'as pas Véronique Sanson, mais t'as de la disco, t'as un saloon.
Ah, t'as de la disco. Pour moi, c'est un truc méga techno.
Bah, il y a pas mal de tech et de trance le soir. Mais après, t'as plein. Non, mais en fait, t'as plein d'art cars, c'est des espèces de gros bus décorés. Moi, la première fois où j'étais allé, il y avait ce nouveau truc qui s'appelait le Disco Fish, qui est donc un gros camion déguisé en poisson. Avec des dalles, tu sais, disco, celles qui changent de couleur, genre Saturday Night Fever et tout, et qui diffusaient de la disco à fond. Et en fait, au fur et à mesure des années, donc je l'avais fait 3 fois d'affilée, ils ont rajouté des lasers sur ses yeux, ils ont rajouté du feu, ils ont changé les dalles pour que ce soit des trucs en LED de ouf. Et donc, ils diffusent toujours de la disco
c'est
partout.
C'est stylé, c'est trop bien.
T'as un saloon hard rock, t'as tout un coin Nouvelle-Orléans avec des mecs qui se barrent tous les jours et qui vont faire une parade à la Nouvelle-Orléanaise dans le festoche. En fait, t'as vraiment voilà, t'as plein de musique en même temps, quoi.
C'est trop cool.
Ouais, c'est
non,
assez,
ça a l'air vraiment complètement dingue, mais c'est immense en fait le lieu où, parce que
ouais.
Je vois tout le monde se déplacer en bagnole, en vélo et tout. Mais bon, oui.
En bagnole, non, t'as pas le droit, mais en vélo, ouais.
Ok.
Mais c'est grand, quoi. T'as quand même 80 000. C'est une mini-ville, tu sais. T'as 80 000 personnes dedans. Et je sais pas, la circonférence du truc, ça doit être 4 ou 5 km de diamètre.
Oui, quand même.
Et donc, comme c'est un peu organisé en rond et tout ça, genre, ouais, avoir un vélo, ça, tu peux le faire à pied, mais bon, c'est okay. Très, ça peut être loin. Pour
ça
aller
peut être,
loin.
Ça peut être loin, ça peut être long.
C'était le guide du Burning Man.
Non, mais tu vois, genre, c'est vraiment genre à chaque fois que tu veux faire un truc, tu dois marcher 2 ou 3 km, donc ça peut être vite relou aussi, quoi, tu vois.
Bah, surtout que t'es dans le désert, quoi.
Surtout sous champignons.
Ouais. Quand tu manges tes omelettes, tu peux mettre des champignons et puis des poireaux.
Merci de ne pas prendre de
drogue.
Oui, non, bah oui.
Dites non à la drogue.
Merci.
Mimi, quel est ton mini-kiff?
Alors, mon mini-kiff vient d'un podcast que j'ai fait, car j'ai moi aussi un podcast qui s'appelle The Boys Club, dans lequel je reçois avec Fabrice, le fondateur de Mademoiselle, un mec qui me parle de son rapport à sa masculinité, et ça sort un mercredi sur deux, donc un mercredi vous avez Laisse-moi kiffer, et le mercredi d'après vous avez The Boys Club, etc. Oui. Et bref, dans un épisode j'ai reçu Lucien Mène, meilleure personne, qui a fait un super épisode où il fait grosso modo une psychothérapie tranquille. Donc avec Fab on n'avait pas trop de questions à poser, le mec il savait où il voulait aller, c'est passionnant.
Il déroule.
Et il commence en parlant de sa passion qui est Survivor. Donc Survivor, c'est mon mini-kiff du moment.
Oh, mais, mais j'aurais dû parler de ça aussi.
Ben oui. Ben je me suis dit comme bien. Ça, c'est bien. Toi, ton mini-kiff, c'était aussi celui de Kalindi. Et moi, mon mini-kiff, c'est un peu aussi le tien.
Oui. Il n'y a que va. Cédric, finalement.
Cédric, c'est un électron libre, tu sais.
Pardon.
C'est ça.
Mais t'as parlé des Destiny Challenge tout à l'heure. C'est un peu comme si t'avais parlé de Survivor. Vous vous souvenez
de ça? Ah oui, elle me survive. Ah oui. Oui. Oh là là, mais, mais comment fais-tu ces connexions-là dans ton cerveau, bordel?
Je sais pas. C'est le mystère.
Pardon. Donc,
Survivor, c'est la version américaine de ce qui est chez nous Koh-Lanta. Donc c'est un truc de survie avec deux équipes et à chaque fois une épreuve de confort pour gagner un truc genre de la bouffe ou des couvertures ou des conneries comme ça. Et une épreuve d'immunité pour pas se faire éliminer la gueule. Et le but c'est d'aller jusqu'au bout. À la fin il ne reste qu'un candidat ou une candidate et cette personne gagne $1 million. Donc c'est un peu plus que les 100 000 euros français de Koh-Lanta. Et en fait, Lucien le vendait super bien en disant que, en gros, lui, c'est sa série télé préférée parce qu'il y a tellement de... Le cast est tellement bien fait de toutes les saisons que ça devient quasiment des personnages avec du drama, du scénario et tout. Il y a des trahisons, des retournements de situation.
Oh là là.
Et la prod aussi fait des trucs de ouf, genre... vous pensiez que ce serait comme d'habitude, MDR, en fait, tous les gens que vous allez éliminer, on va les ramener, ça va devenir une équipe supplémentaire et ils vont se battre contre vous et peut-être qu'ils vont gagner et du coup, c'est eux qui auront les sous et t'es là. Donc ça, c'est cool.
Ah, c'est trop bien.
Et du coup, j'ai regardé la saison 19 de Survivor que Lucien m'a conseillé comme la première à regarder. Il y a 36 saisons en tout, c'est beaucoup. Ouais. Mais il m'a dit, t'as pas à regarder les 36, voici mon top de celles qu'il faut regarder et dans quel ordre, car c'est la meilleure personne. On vous mettra le top dans la description.
Ah, mais attends, il y a combien de saisons par an?
Deux ou trois. Oui, au début, j'ai aussi demandé est-ce que ça existe depuis 36 ans et après, je me suis rendu compte que c'était une question con. Car, à mon avis, Survivor n'existe pas depuis 1982. Et non.
82.
Pas. Ce serait marrant en termes d'outfit, je pense. Et de,
là, ça fait 18 piges quand même. Hein, ouais. Ça fait un sacré paquet d'années. Hein.
Ouais.
Putain.
Et tu sens dans les. Là, je regarde la saison 8 en ce moment, tu sens le côté vraiment année 2000. Ouais. Des fringues, des personnages, du coup, de la personnalité des gens et tout, c'est très marrant.
Est-ce que je peux raconter une anecdote concernant Koh-Lanta? Alors moi, Survivor, je m'y suis mise là, il y a pas longtemps, parce qu'en fait, Mimi et Fab en ont parlé après avoir fait le podcast avec Lucien. Ensuite, j'ai écouté le podcast avec Lucien, je me suis dit, ok, j'avais déjà commencé à regarder, mais là, j'étais là, ok, je vais regarder tout. Et en fait, Koh-Lanta, moi, j'aime beaucoup et on le regarde avec mon mec. Et la dernière fois, on avait regardé le dernier épisode de la saison en cours, donc il a... Faudrait un autre épisode de Koh-Lanta. Et Survivor n'était pas encore arrivé dans ma vie. Et du coup, on a cherché Koh-Lanta saison 1. Et on a trouvé en streaming Koh-Lanta saison 1. Et on a regardé genre un ou deux épisodes, parce qu'en vrai, c'est très lent. Et comme c'est la première saison, les gens savent pas exactement ce qu'ils sont censés faire. Et ils sont là, déjà, ils sont sur une île. Il y en a une qui a ramené un matelas gonflable. J'étais là, ok, bah d'accord.
Ça passe plus maintenant,
c'est
ça.
Clair, ça a géchant. Et du coup, ouais, c'est trop intéressant. Ils arrivent, ils ont trop d'outils, ils ont du riz et tout. J'étais là, putain, aujourd'hui, les gens, ils sont vraiment dans la merde. Et du coup, ça m'a fait marrer de regarder les deux premiers épisodes. Et en effet, en termes d'outfit et tout, tu sens qu'on est dans les années 2000. C'est vraiment compliqué. Et ils sont pas du tout dans l'esprit du jeu qu'il y a actuellement dans Koh-Lanta. Et alors, encore moins que les Américains qui sont tarés.
Vraiment, les Américains, je les aime trop. C'est vraiment, en fait, ils sont à, déjà, je pense que le fait de, mais Lucien le dit à un moment dans le podcast, le fait de gagner $1 million,
ouais.
C'est pas comme 100 000 euros où, en gros, ça peut arriver à plus de gens dans leur vie d'un moment d'avoir 100 000 euros, voilà, tu crées une boîte et elle marche bien, c'est pas complètement wild, alors que 1 million, déjà, c'est beaucoup, et enfin, c'est vraiment, vraiment des sales races, quoi, t'as toujours des méchants et des gentils, et les gentils, en règle générale, ils se font ken parce qu'en fait, tout le monde est là. Ok, t'es trop gentil, les gens ils vont voter parce qu'il y a un vote à la fin. Bref, du coup, ils se font ken et les méchants ils sont super méchants.
Mais en fait, c'est comme
ils
dans.
Ils sont hostiles envers les gens, quoi.
C'est comme dans Koh-Lanta. C'est comme dans Koh-Lanta.
J'ai pas regardé
Koh-Lanta. En fait, Koh-Lanta, à la fin, t'en as toujours deux qui restent et il y a le dernier vote du conseil qui est dévoilé en live. Et en gros, tu sais très bien que celui qui a. En gros, dans Koh-Lanta, ce qui est chiant, c'est que c'est toujours le plus sympa qui gagne. Genre. Il y a la dernière fois, pas cette saison, mais la saison d'avant.
Un bâtard, mais pas trop.
Ouais, c'est ça. En fait, il y a un mec qui s'était fait éliminer, qui avait été par les biais de la prod et tout machin, qui avait été ramené dans le jeu et qui avait fini en finale avec une autre meuf qui s'était mais défoncée. Elle s'appelle, c'était Tiffany et André. Et elle, elle avait genre fait des trucs de ouf en termes de stratégie, tu vois. Et moi, j'étais là, mais c'est... Enfin, genre, s'il y a quelqu'un qui doit gagner Koh-Lanta, en termes de jeu, c'est elle, tu vois. Genre, même si, bah oui, forcément, elle a trahi des gens, elle a fait des trucs en mode « Ah, tu pensais pas que j'avais un collier d'immunité ? Bah, nique ta mère !» et en fait, elle a réussi le coup, et elle est arrivée en finale, et c'était trop ouf. Et forcément, c'est le gars sympa qui a gagné, parce que « Il est tellement sympa, André !»« Mais niquez vos mères, putain !» Le fait de gagner des thunes aux gens qui ont bien joué, tu vois.
Oui, c'est pas au mérite, quoi, c'est dommage.
Et ce que je trouve intéressant dans Survivor, c'est que ils sont dans le jeu direct, à se dire genre non mais elle alors c'est soit les trucs genre t'es un peu trop sympa et tout donc du coup t'as bien joué et en plus t'es sympa donc c'est mort on va t'éliminer, mais il y a aussi le truc de tu vas trop bien jouer, genre dès les premiers jours c'est à toi tu vas vouloir retourner le cerveau des gens, du coup on va te jarter direct. Ouais. Toi on t'a vu venir et du coup c'est assez cool, mais j'ai regardé, moi j'ai pas
t'imagines t'es dans la tête d'un gars Survivor, genre t'es je dois avancer masqué, mais pas trop.
Ah,
mais
genre, tu
t'es nul. Ouais. Ah, mais la stratégie, plus le manque de sommeil, plus le manque de nourriture, plus le manque d'eau. Genre là, la saison que je regarde, ils ont leur eau, leur puits, l'eau, elle est crado. Du coup, ils doivent la bouillir, mais pendant 4 jours, ils n'ont pas de feu. Donc en fait, pendant 4 jours, ils boivent la pluie et c'est tout. Ils sont, plus les épreuves physiques et tout, ils sont zinzin, real quick. Vraiment, tu sens qu'ils perdent en humanité.
Ouais.
En civilisation, en tout cas, et en politesse que nous, on a. Et dès qu'ils réussissent une épreuve de confort et qu'ils, genre, mangent des plats de personnes, enfin, des plats normaux avec la viande cuite, du où ils dorment palais. Bien, ils sont là. Ah, j'ai l'impression de redevenir moi-même parce qu'en fait, ils pètent des plombs.
Bah ouais, normal.
Ouais. Moi, tu vois jamais.
Moi, déjà, le matin, quand je passe 4 heures sans manger, je sens bien que je suis pas dans mon état normal. Alors, 4 jours, ça doit être vraiment chaud.
C'est clair. Putain, j'ai
non, mais vraiment,
c'est ouf, hein.
Moi, à 11h, je commence à sentir que je suis pas bien, tu vois. Alors, vraiment.
Ah, moi, s'il n'y a pas de café le matin à la maison, genre, je suis en angoisse absolue. Je suis genre, qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais. On va tous mourir.
Cédric sur Survivor. Waouh.
Ah, mais ils ont pas de café ? Ah, c'est mort.
Et moi,
je sors de là, j'achète
m'a...
1 million de dollars de café. Pire truc mal dépensé.
Il y a un truc qui m'a marqué. Alors, moi, j'ai regardé la saison 33 et là, je regarde la 34. Et sur la saison 33, il y a des jeux de confort où ils gagnent de la bouffe et des boissons alcoolisées. Genre, le mec,
oui,
il leur
ouais.
dit, il y a du vin. Et ils sont là, oh, trop bien, du vin et tout. Et je suis là, mais c'est trop bizarre. Enfin, genre, les gars, vous avez pas mangé. Genre, vous buvez de l'eau et tout. Enfin,
ils
genre,
s'en battent les steaks, ils ont tellement envie de picoler. Genre, là, je regarde une saison où
il est sur un problème de
le rapport américain à l'alcool, il est chelou aussi.
Mais il y a un vrai côté déjà festif, ouais, et enfin ouais. Et c'est un vrai lien de civilisation. Et je pense qu'en vrai, donc dans Survivor, il y a tous les 3 jours une épreuve. Et si tu gagnes, t'as encore 3 jours. Et en fait, je pense que pendant 3 jours, t'as le temps de te faire tellement chier sur l'île pétée. Il pleut, t'as rien à faire, tu bouffes un bol de riz par jour et t'es avec des gens que tu connais pas.
Putain,
et à mon avis, la perspective d'avoir de la tease pour teaser avec les gens et être un peu détente.
Tu teases avec les gens, t'es pas seul tout dans un coin avec ta bouteille de vin et tu fais YOLO chaque année.
Non, t'es avec ton équipe, tu vois, mais ne serait-ce que dans ta tête, la perspective de te dire, ok, à un moment, je vais me poser au soleil sur la plage et boire une bière.
Et boire du vin rouge.
Je précise, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Oui,
oui, voilà. Ne buvez pas. C'est quand même ton
mais, mais ouais, enfin, moi, en tant que meuf qui boit pas, franchement, je les vois en mode. Oh, tu sais, genre, ils leur annoncent des plats, des trucs de ouf. Tu sais, genre, à bouffer, t'as pas mangé pendant 4 jours, t'es plus content de manger que de boire du vin, quoi. Et il y a un moment donné, il y a une meuf, elle a dit quoi ? T'as dit du vin ? Trop bien. Genre, vraiment, je suis là.
Hier, j'ai vu un épisode où, dans l'épreuve de confort, ils vont, ceux qui gagnent, ils vont manger un gros barbecue sur un bateau. Et le présentateur, il fait, et vous savez, ce qui va avec le barbecue, il y a un mec qui fait de la bière. Et déjà, ils sont tous là en train de péter un plomb en mode, on aura de la bière. Le présentateur, il fait, non, un open bar. Et ils fondent un fusible. Tellement ils sont contents.
Wow.
Mais en plus, je
non, mais ça
que
se comprend. Hein. Bah, je comprends de ouf. Hein.
Ça se comprend, mais d'un autre côté, je me dis, pour leur corps, qui est complètement déshabitué, ça dure quand même 40 jours Survivor, donc au bout d'un moment, t'es quand même, ça fait longtemps que t'es là et ton corps il est plus habitué. Plus
c'est
le
ça,
fait
ouais.
que physiquement ils sont hyper affaiblis, à mon avis, la gueule de bois du lendemain
elle est
complexe.
Chaude. Et à mon avis, elle dure pas que le lendemain.
Ouais,
ah
je pense
ouais,
que ton corps il s'imbibe clair. D'alcool et il fait
je n'ai eu que 3 grammes de riz pour absorber
c'est
la
clair.
Triple dose de bouffe que tu lui as infligée.
Ouais,
parce qu'ils
ça,
ont éclaté le barbecue, ils ont mangé tous les desserts. Il y avait un apéro avant, ensuite ils ont bu des bières en mangeant un notre apéro le soir.
Tu fais gonfler le bidet et tout. Putain, ils ont dû être dans un
nez. Ouais, c'est chaud. Hein. Mais il y a, dans la saison que j'ai regardée, il y a un mec à un moment donné, il mange tellement à une épreuve de confort que le lendemain, il est pas yimbe et il se fait envoyer, enfin, il se fait éliminer du jeu par les médecins parce qu'il a trop mangé, tu vois.
Et, ouais.
Et t'es là, franchement, c'est chaud. C'est-à-dire que tu gagnes un truc et après, tu te fais niquer ton million de dollars parce que juste t'as trop mangé. Dommage.
Ouais. Mais c'est normal, ton estomac, en fait, forcément, il s'adapte, il rétrécit.
Mais c'est pour ça que je trouve ça ouf, tu vois. Je me dis, en fait, sur des épreuves de confort, soyez un peu intelligent et donnez pas n'importe quoi aux candidats, tu vois. Genre, toi, t'es en manque.
Après, ça fait partie du truc. Ils disent, hop là, alors, est-ce que tu vas succomber à la tentation?
Ouais, c'est ça, en fait.
Et il y a le côté où, du coup, comme ils sont désinhibés par l'alcool...
Ça, c'est trop drôle.
Ils partent encore plus
quoi, en coup. Ils font la fête, ils se disent des trucs genre, ouais, tu sais, en vrai, moi, j'ai voté pour toi au dernier conseil.
Et du coup, ça rentre en jeu dans la stratégie
aussi.
Vrai.
Donc, ouais, c'est vrai.
T'as toujours un gars ou une meuf qui est shady et qui fait semblant de boire beaucoup, mais en fait, mais il avale une gorgée sur quatre et il regarde les autres se bourrer la gueule en mode, je vais aller leur poser des questions maintenant qu'ils sont bourrés.
C'est clair. Mais ça, c'est tellement marrant, le moment où ils sont bourrés et qu'ils racontent des trucs sur le jeu et sur la strat, c'était là, bon, bah, vous êtes niqué la gueule tout seul, quoi.
Mais le seul espoir, c'est que qu'ils continuent à boire et qu'ils s'en souviennent pas.
Enfin voilà, moi j'ai grave kiffé la saison de Survivor que j'ai regardée. Moi c'était, il y avait trois tribus et c'était les gens intelligents, les gens musclés et les gens beaux.
Ça tu vois que c'est le tribu parce
là,
que
vous êtes non, tellement américains.
La 19 qui est juste deux tribus les uns contre les autres, il y a un super méchant. J'ai vu la 7 où pareil c'est deux tribus normales et j'ai commencé la 8 où c'est un All Stars. Tu vois, c'est hyper lambda, mais je pense qu'au bout de, ouais, au bout de 33 saisons, t'es là, ok, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit pas
et
pareil
du coup,
que d'habitude,
mais...
putain.
Mais là, c'est vraiment trop drôle. Dès les premières minutes, donc moi, c'est la première saison que j'ai regardée, et dès les premières minutes, t'es là, ok, vous avez vraiment mis des gens dans des cases comme ça en disant, toi, t'es beau, toi, t'es intelligent, et tu peux pas être autrement. Tu
bon,
vois.
On a la même chose
une
en France.
Question.
Hein.
Mais du coup, les musclés, ils sont moches et les beaux, ils sont malingres.
Non. Non, non, pas du tout. Mais non, mais c'est des candidats lambda, tu vois. Mais c'est juste, par exemple, dans la tribu des intelligents, il y a un médecin urgentiste qui est imbitable, mais il est insup. Et vraiment, tu l'entends parler deux minutes, t'es là, ok, t'es la pire personne. Le mec qui a le plus d'ego de tous les candidats, c'est sûr, quoi. Et du coup, t'es là, bon, bah, toi, tu vas pas durer longtemps, c'est pas possible. En fait, personne va pouvoir t'écouter parler de toi de cette manière si longtemps. Enfin, ce n'est pas possible. Et il y en a une autre. Elle est, alors je sais pas, elle a tout fait dans sa vie, et donc elle est pareil, c'est dans la tribu des gens intelligents. Et elle est là, oh, bah, tu sais, moi, j'ai fait du karaté, des machins. Ah ouais, non, mais ça me rappelle quand j'ai fait l'hélicoptère. Ah, mais quand je faisais de la plongée, machin. Et la meuf, elle est insup. Et vraiment, je suis là, franchement, arrête de parler. Déjà, tu m'énerves alors que je regarde l'émission. J'aurais pas aimé être avec toi pendant 30 jours ou 40 jours, tu vois, genre, insup. Du coup, c'est un peu genre, tenez, voici les... Ça fait bon, c'est un peu chelou dit comme ça, mais c'est enfin c'est genre regarder le zoo, tu vois, genre voilà, regarder les gens chelous qu'on a réussi à caster et en même temps t'as envie de regarder quoi, c'est et
ah,
puis
ça, oui.
Je trouve que les épreuves elles sont vraiment plus dures que Koh-Lanta quoi.
Elles sont super dures. Quand le mec il explique l'épreuve, ça dure tellement longtemps, il y a toujours 18 étapes et qui sont hyper physiques ou hyper mentales, il faut aller super vite et tout. Et donc, pour toi, le spectateur, quand le présentateur il explique l'épreuve, t'as une reconstitution à quelqu'un qui le fait pour que t'aies un visuel, mais pour les candidats, ouais. Non. Et ils sont déshydratés, affamés et tout. Et je me dis, mais comment ils oublient pas la moitié de ce qu'ils doivent faire, quoi.
C'est
long.
Clair. C'est clair.
Donc voilà, c'était une longue digression sur Survivor.
Ouais, mais on aime bien Survivor.
Oui, ça a l'air très bien, ça me donne.
Ça a l'air marrant, moi aussi, ça me donne.
Ça a l'air très drôle, oui. Pourtant, moi, je me suis jamais intéressée à Koh-Lanta plus que ça. J'avais regardé, je crois, la première et la deuxième édition. Et à l'époque, j'étais gamine, donc les trucs d'aventure, je m'en battais un peu les couilles. Les stratégies, j'y pigeais rien, donc j'avais lâché très rapidement l'affaire.
Moi, Denis Brognard,
ça a l'air drôle,
il m'angoisse,
parce que plus perfide.
Oh, c'est vrai.
Est-ce que tu viens de dire Denis Brognard, il m'angoisse,
Et pourquoi il t'angoisse?
Je sais pas. Il me fait penser à mon petit chien qui est un petit. J'avais un petit caniche qui me sautait tout le temps dessus quand j'étais petit. Quoi.
Bah, si, je sais c'est pas, juste il me parce penser... qu'il a les cheveux bouclés.
Il a beaucoup les cheveux bouclés, mais bouclés comme, un peu comme mon petit caniche.
Comme Stéphane Bern.
Stéphane Bern m'angoisse moins. Mais parce qu'il me demande pas de me tenir sur un plot, tu vois, au milieu de la mer aussi,
un
Stéphane Bern. Il me dit un bout de bois, là, les
trucs. Un poteau,
truc.
Oui.
Un poteau.
C'est l'épreuve des poteaux, ça, je le sais. On n'aura donc jamais Denis Brognard dans ce podcast.
Non, moi, j'aimerais bien parler avec lui de pourquoi il m'angoisse. Et lui poser la question, dis-moi, Denis.
N'hésite pas à voir.
Est-ce que tu sais pourquoi tu angoisses les gens?
Ou va voir un psy. Hein, voilà. Je pense que pas. C'est une conclusion qui peut être plus
est-ce qu'on ferait pas un jour venir un psy
Mais genre undercover, quoi.
Car entre ça, les crabes et les orphelinats, etc., j'avoue. Je pense qu'il y a matière à nous faire une petite psychanalyse. Là, comme ça,
pas
sur le canapé.
Là, vite fait, quoi.
Pas piquer des hannetons, tout
moi,
à fait.
Moi, ce serait un psy caché. Genre, on penserait que c'est un invité, mais en fait, c'est un psy, il pose des questions, il te demande de digresser sur tes digressions, et toi, tu parles comme ça. Et à la fin, il te fait « Ah ah, Rivine, j'étais un psy !» Et il t'explique que t'es pété.
Attends, le « Ah ah, Rivine », il a enlevé un masque. Il a fait le geste
d'enlever un masque. Pourquoi un psy aurait un masque ?
Parce qu'il est undercover.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Je n'en peux plus.
J'avais jamais remarqué que t'étais si bizarre.
Ah bon?
Je suis fatiguée, c'est passé une longue journée.
Ça commence à faire pas mal d'épisodes pourtant,
c'est...
quand même.
C'est clair.
Écoute, j'ai l'impression que chaque fois j'oublie et chaque fois je me dis ah j'avais oublié et tu vois chaque fois du coup c'est la bonne surprise.
Bon, vas-y,
moi
Cédric.
J'ai une pote qui est psy et en fait avant que elle te parle super longtemps en soirée. Et du coup, tu dis, ah, elle s'intéresse vachement à moi, et au bout d'un moment, elle te dit, ah, je suis psy.
Et du coup, elle a compris toutes tes
failles. Elle te dit des trucs. Non, mais elle joue vachement de ça. Elle
tu
te
crois
dit,
que les psys ont ça à foutre de te faire des thérapies gratos alors pété, que c'est leur métier.
Mais elle, ça l'amuse d'être un peu comme ça, tu vois, genre la psy shady en soirée.
Comme si nous, en soirée, on écrivait des articles comme ça sur des bouts de nappe. Genre, c'est cadeau. Allez, c'est cadeau, Michel.
je t'ai dessiné un gif vite fait, il bouge pas.
Si tu bouges très vite,
j'ai fait un flipbook.
Oui, c'était trop bien les flipbooks, putain.
Ah ouais, c'était la meilleure chose.
Ah là là.
C'est quoi
l'école,
ton gros kiff, Cédric? Cédric Focus.
C'est les flipbooks.
Cédric, c'est quoi ton gros kiff?
Complètement annulé mon gros kiff pour parler des flipbooks. Mon gros kiff, c'est quoi? Non, mon gros kiff. Alors j'ai pris une note. En fait, c'est une BD.
Ouais.
De
trop
Uli
bien.
Lust, qui est une illustratrice autrichienne.
Ok.
Et c'est sa quatrième publication, un truc comme ça. En fait, sa deuxième publication autobiographique, elle avait sorti il y a quelques années un truc qui s'appelait Trop n'est pas assez sur sa jeunesse quand elle avait 17 piges en Autriche et que c'était une punk à chien qui mendiait dans la rue.
Ok.
On est très ambiance mendicité dans la rue par des jeunes blancs privilégiés aujourd'hui.
Le podcast de la mendicité. Après.
Écrivez-nous vos histoires à mendicité@mademoiselle.com.
Après l'orphelinat, la meuf qui grimpe une montagne, la mendicité. Continue Cédric sur cette lancée.
Ouais, du coup en fait elle fait... Donc elle traîne avec ses potes punk à chien dans les années 80 en Autriche, en Italie et en Allemagne. Et en fait, c'est en vrai, c'est de ouf passionnant parce que on est encore en pleine période punk, donc il y a vraiment cette espèce de mouvement anarch sociétalo, nos futurs, nos hopes, et je m'en bats les couilles de ce qui se passe dans la
sociétalo, sociétala, et déclinez-le à l'infini.
No dormiras, sociétalas. Bref, putain, c'est vraiment l'angoisse. Bref, donc du coup, ce truc-là. Trop n'est pas assez, c'est ça, c'était cette espèce de road trip d'elle et sa pote qui partent en couille et donc qui parlent aussi de plein de choses, de libération sexuelle dans les années 80 et de moult sujets. Et donc ce truc-là est déjà assez passionnant, en plus c'est des grosses BD genre de 350 pages, donc ça tient vachement longtemps et
putain.
Ça j'aime bien. Et donc son nouveau truc qui s'appelle, parce que j'ai connu le titre, il est compliqué, « Alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien ». Donc en fait c'est quelques années.
Je sais pas si
bah, ouais, mais vas-y, souviens-toi de ça. Genre.
J'essaye d'écouter, d'être sérieuse.
Je vous déteste toutes.
J'ai Kalindi et Louise en visuel qui se tapent des
mains. On dirait des gremlins, quoi.
Putain. T'appelais Gizmo.
Et donc, alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien, c'est quelques années plus tard, la nana, donc Uli Lost, elle a 25 piges, elle est illustratrice. Donc, elle est revenue en Autriche, elle a un môme de 5 ans. Elle a pas de taf, donc elle est aux aides sociales qui sont en train de se terminer. C'est un peu l'angoisse.
C'est le Ken Loach de la BD, genre.
C'est clair. Et donc, son môme vit chez ses parents un peu en campagne. Et elle vit donc à Vienne en essayant de se faire publier. Elle sort avec un mec qui a 45 piges, qui fait du théâtre. Et qui fait du théâtre indépendant. Il écrit, il monte, il a sa propre compagnie. Mais sexuellement, il est pas spécialement... il s'en bat un peu les couilles du cul, quoi. Donc, elle dit... Ça arrive. Ah oui, il s'en bat les couilles du cul.
Je sais que ça arrive, Cédric. Ne fais pas la leçon. Oh, bah, tu sais, la libido.
Oh, bah
va,
attends,
ça...
mais voyons, Mimi. Je te pense.
C'est ça qui est marrant.
Et donc Uli, qui est, Uli, qui est donc très intéressée, elle, plutôt par le sexe, en fait, se met en autre couple avec un jeune Nigérian sans papier qui vit à Vienne. Et donc, en fait, c'est l'histoire de ce trouble qui se forme entre ce vieux mec de 45 ans et ce gars qu'elle croise plus ou moins quasiment dans la rue et qui, en fait, va venir s'installer avec elle. Et donc, c'est leur histoire un petit peu comme ça qui se développe dans ce Vienne où elle n'arrive pas à trouver du taf. Lui, il a du taf, mais pas vraiment de papier et c'est la dèche. Et donc, l'autre, il fait ses pièces de théâtre qui montent et qui le font voyager un petit peu à travers l'Autriche. Et c'est ultra passionnant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images de pénis et de vulves un peu partout. Vraiment, à base, avec où elle ride un pénis géant, avec ça, voilà, ça coule de partout, c'est tout ça. C'est assez gênant à lire dans le métro, ce qui m'est arrivé de nombreuses fois.
Ah oui, je comprends.
Mais c'est de ouf, c'est trop passionnant, c'est génial. Et ça fait aussi, voilà, 350 pages, donc une bonne lecture qui dure 3 semaines.
Moi, j'aime bien, parce qu'en fait, ce qui me saoule dans les BD, c'est que très souvent, elles sont courtes, et en fait, tu les as lues en une heure et demie. Ouais. Et en fait, la BD, c'est quand même un livre qui coûte cher. Et, ouais. Et en fait, dépenser beaucoup d'argent pour quelque chose que tu vas lire très très rapidement, moi, c'est quelque chose qui me frustre, qui m'a toujours frustrée. J'ai lu l'adaptation en BD de En attendant Bojangles, qui a eu un succès fou et tellement retentissant qu'il en est même arrivé sur les planches au théâtre.
Est-ce qu'il était à Angoulême?
Ça, il y a tout à Angoulême.
Tu cherches tellement la merde, putain, j'étais en train d'être sur une lancée sérieuse. Et voilà, et en fait, j'avais vraiment beaucoup aimé le livre. Mais je me suis dit, mince, alors que le livre m'avait pris 3 heures à lire, eh bien, la BD, ça avait été très expéditif. Et donc, j'étais un peu restée sur ma faim, parce que j'aime quand c'est le clair. Plaisir est long. et voilà.
Titre.
Et du coup, ça a l'air très bien, cette BD.
Je te l'amènerai, si tu veux.
Ah oui, grave, avec grand plaisir.
C'est grave bien.
Mais c'est trop bien, les romans graphiques, de manière générale, mais j'aime bien ceux de autobiographiques. Mmh. Ou qui raconte en tout cas des histoires de vie. Moi, j'avais grave kiffé celui que Pénélope avait fait sur la meuf du groupe dont je vais pas me souvenir le nom.
Oui.
Qui chante California Dreaming.
Oui.
Mamazen de Papas.
Oui, voilà. Donc Pénélope avait fait une BD biographique sur cette meuf qui est trop bien. Et de manière générale, je trouve que les BD qui racontent des histoires de vie, elles sont hyper touchantes, quoi.
Ouais.
Et bon, en l'occurrence, là, tout ce que tu racontes sur cette meuf a l'air d'avoir une vie très compliquée. Donc,
c'est que du choix. Donc, c'est assez marrant parce que c'est des trucs qu'elle vit, qu'elle assume et tout. Après, tu vois cette espèce de côté désinvolte des années 80 en Autriche. Tu vois que c'est pas encore la crise des subprimes et l'effondrement de l'économie mondiale et la montée. Enfin, tu vois, c'est assez soft, quoi. C'est parenthèse enchantée. Comme
enchanté sur le premier tome dont t'as parlé, oui, ça a pas l'air de ouf, mais
c'est moins enchanté.
Ouais. Et il y a juste sur ce que tu disais, donc le deuxième mec emménage avec elle.
Ouais.
Et elle habite pas avec le premier.
Non.
Ok, d'accord.
Mais il est
c'est
au courant
le premier.
Marrant.
Le premier est au courant. Après, okay. C'est rigolo parce que t'as des scènes où les deux se rencontrent, ils deviennent un peu potes. Le nouveau, il dit ah putain, il est vraiment très sympa. Et en même temps, il fait des crises de jalousie le nouveau contre l'ancien. Et non, c'est assez marrant, il y a un vrai truc de relation. En vrai, ça parle aussi d'une relation très pétée.
Non, arrête de toucher ce bouton qui est ton bouton d'allumer le micro. Donc.
Bonjour, I am back.
En fait, depuis tout ce temps.
Il a donné un bouton à Cédric.
Il y a un scotch sur le truc, il a enlevé le scotch et il a éteint son micro, quoi.
Ah là là, Cédric.
Bravo, Cédric.
Que ferait-on sans toi?
Un podcast qui tient la route, voyons.
Ah non, tu es parfait.
Est-ce que vous voulez passer à un autre kiff?
Bien sûr.
Oui. Kalindi, Mimi, qui?
En fait, je voulais dire en gros kiff que j'étais trop contente d'avoir 10K sur donc 10 000 followers sur Instagram. Parce que
allez,
je pouvais faire des stories. En vrai, je pouvais faire des stories avant, mais ça me cassait les couilles. Et maintenant, je me suis mise à en faire parce que quand t'as 10 000 abonnés, tu peux dire aux gens swipe. Et ils swipe et tu mets un lien et ça les envoie vers...
Tu peux les ricroller.
Oh, putain, je l'ai jamais fait. Qu'est-ce que ça veut dire,
Kalindi?
La vieille personne qui ne connaît pas Internet.
Alors,
s'est réveillée.
Tu vois ce que c'est un mème?
Oui, j'ai appris récemment.
Rickroll, c'est un mème d'il y a un moment, d'il y a plusieurs années, où en fait, t'envoyais des liens aux gens, genre, j'ai vu cette vidéo trop chou et tout. Et en fait, à la fin, c'était Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Et pendant des années, et encore maintenant, t'as des moments random où tu cliques sur un lien, parce que le mème, il est vieux, donc tu vois, tu l'as plus en tête tout le temps. Et tu cliques sur un lien, genre, ça me fait penser à cette histoire dingo, et t'arrives sur Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Ouais. C'est con, mais c'est très marrant. J'ai fait une escape room à Paris où à un moment tu dois relier t'as genre plein de prises jack et des casques et tu dois les relier dans le bon sens et si tu te rates t'as Never Gonna Give You Up. C'est drôle. Et donc ça devait être ça mon gros kiff, mais comme on a déjà beaucoup parlé d'Instagram, je me suis dit je vais changer, mais followez-moi sur Instagram quand même, c'est Mimi HGL, M-I-M-I-H-G-L, voilà, comme ça j'aurai 10,1K. Et un jour j'aurai 100K.
Et Mimi, c'est avec des Y, meuf, tu connais pas, t'as dit M-I-M-I-H-G-L.
En fait, je suis très fatiguée. Ok, Louise, qu'est-ce qu'on refait? M-Y-M-Y-H. Arrête! M-Y-M-Y-H-G-L.
M-Y-M-Y-H-G-L.
Au moment où je suis censée te dire mon nom. C'est fatigant, ma vie. Anywho, du coup, j'ai choisi comme gros kiff la belle ville de Lyon. Parce qu'en fait, j'ai appris avec ravissement hier que j'allais sûrement aller bientôt à Lyon pour un truc secret de mademoiselle.com qui va être très bien.
J'ai failli le dire en plus de dire « C'est ça ?»
Bon, je sais pas si on peut le dire. Je vais le dire et puis au
demande
pire,
à Cédric.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un cinéma de... Oui, on l'a dit sur
Love
le site.
Simon.
Mademoiselle.com est partenaire de Love, Simon, un teen movie sur une romance entre deux garçons qui a l'air vachement bien. Et on organise pour la première fois un cinéma avant-première dans plein de villes de France et pas que à Paris. Et du coup, il y en a un à Lyon. Et donc, les gens de la régie étaient là. Oui, ce serait bien quand on est partenaire qu'à chaque ville, il y ait une membre de l'équipe qui vienne représenter Mademoiselle. Et j'étais là, je peux aller à Lyon si vous voulez. Parce qu'en fait, j'ai jamais les sous d'aller à Lyon, moi, c'est loin.
Il faut dire quand même que Mimi a vécu à Lyon très longtemps.
Oui, voilà, Lyon, c'est la ville où j'ai fait mes études. Oui. Et c'est la première ville où je me suis vraiment sentie chez moi. Et si Fab Flo m'avait écouté, Mademoiselle serait à Lyon et j'aurais pas eu à venir vivre à Paris. Mais du coup, je ne vous connaîtrais pas et ce serait très triste.
Ah ouais, moi, j'aurais jamais bossé là à Lyon. Hein.
Pourquoi?
T'aimes pas les quenelles?
J'adore les quenelles, mais que si c'est de brochet. Non, parce que je sais pas, c'est très sympa, Lyon. Mais oui, continuons sur.
C'est sympa pour un week-end, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. La province.
Moi, j'adore vanner les gens j'adore vanner les gens qui viennent de Lyon. La meuf vient de Lyon, et du coup, mon grand plaisir, c'est de me foutre de la ville de sa gueule. Me foutre de la gueule de sa fille.
T'as pas grandi genre dans le 9-1 dans un bled paumé où tu faisais du vélo sur la route?
Non, je grandissais à Montreuil dans le 9-3 et à chaque fois, elle me dit, plusieurs fois, on est allé en Italie, elle me disait « Ah, l'Italie, ça me fait penser à Lyon. » Et moi, j'étais là « Ouais, ça me fait penser à Montreuil aussi. Enfin, » Genre, j'étais là, genre, vous avez deux fleuves parce que vous n'êtes pas foutu de faire des belles berges avec un seul fleuve. Tu vois, j'adore vanner les gens de Lyon.
Ah, moi, je pensais que tu lui aurais dit, genre, fais attention à ce que tes potes rugissent pas trop, mais c'était vraiment très, très. Ah. En pensant à dire ça, je me suis dit, waouh.
Bravo, Cal, je te soutiens, moi, tu
vois. J'ai envie de te voir dans une battle de rap un jour.
Un rap contenders.
Ah, oh, putain.
Et du coup, j'ai appris que non seulement je vais aller à Lyon pour le cinéma de Love, Simon, mais qu'il y a de bonnes chances. Là, pour un projet qui est vraiment secret, que je peux pas vous dire, que j'y reste plusieurs jours et que Fab m'y rejoigne en fin de semaine pour qu'on fasse un truc secret. Du coup, je vais faire une semaine à Lyon au frais de la boîte et j'ai pas été à Lyon depuis le nouvel an. Donc on est en mai, ça fait un moment. J'avais pas de projet d'y retourner bientôt parce que ça coûte, je sais pas, 150 balles aller-retour, même avec la carte jeune. Et du coup, je suis trop contente parce que Lyon, je trouve, c'est la best ville. Quoi ?
En plus, c'est une ville chère où aller. Vraiment.
Alors que Montreuil, c'est pas cher.
Ouais, franchement, Montreuil.
Prends ta Navigo,
1,70€ le ticket, bam, Mérine Montreuil, Croix de Chavaux.
Depuis vraiment longtemps.
Ah non, c'est... Si,
c'est toujours 1,70€. Je crois que c'est 2 balles, mais c'est que dans les bus.
Croix de Chavaux, La Boissière, 9,300€, ma sœur.
Ah, tu le vois bien.
Ouais, c'est clair.
Non, j'aime trop Lyon parce que je trouve que c'est pile la bonne taille et tu peux quasiment tout faire à pied, mais c'est quand même grand et tu te fais pas chier.
Ouais, c'est quand même grand du cul, hein.
Hein ?
C'est quand même grand.
C'est... T'as dit c'est grand du cul ?
Ouais.
Ok.
Par rapport à Paris, j'aime beaucoup. Tu vois, enfin, Lyon, si tu pars à pied d'un bout de Lyon, t'arrives à l'autre bout en max 2h30.
Ouais.
3h, tu vois, max. Si tu marches d'un pas normal et que tu t'arrêtes pas tout le temps.
Quand même.
Oui, c'est genre la troisième plus grande ville de France.
Ah oui.
Mais Paris, tu pars d'un point dans Paris, deuxième, tu marches 2h30, t'es toujours à Paris, frère. Hein. T'as changé d'arrondissement, peut-être de 2 arrondissements, mais c'est tout. Et du coup, Lyon, c'est grand, mais ça se fait. C'est pas trop cher les loyers. Et tu as plein de petits endroits où sortir et tout, sans être comme dans les villes plus petites, genre Grenoble, où j'ai vécu un an, et que pour le coup, désolé, je n'ai pas du tout aimé. En fait, t'as fait le tour du centre-ville en 2 heures et tu fais toutes tes soirées dans les mêmes... T'as 3 bars cool et 3 restos cool. Enfin, j'exagère un peu, mais t'as vite fait tourner en rond alors qu'à Lyon, j'ai pas trop tourné en rond.
Ah là là, j'aurais aimé t'avoir comme guide quand j'étais à la fac de Lyon pendant 2 mois. Pour te dire à quel point j'ai adoré Lyon.
À Lyon.
J'étais à Bron.
Ah oui, moi aussi.
Mais oui.
On était donc à la fac pourrie qui n'est pas à Lyon, mais qui est dans l'équivalent, ce qu'on peut appeler le Montreuil de Lyon, qui est donc
Villeurbanne.
Le pire endroit.
Villeurbanne. Les gens qui habitent Villeurbanne vont pas être contents.
C'est une fac nulle en préfabriqué, en métal, à 30 minutes en tram de la ville, et derrière t'as un Toys R Us et un KFC.
Ouais,
c'est la chose la plus déprimante du monde.
La déprime. Et voilà, j'étais censée faire 3 ans de licence à Lyon et j'ai fait 2 mois.
Fait 2 mois.
Voilà. Après, je suis partie à Rennes parce que ça avait l'air beaucoup plus sympa.
Du coup, si vous êtes à Lyon, entre le 5 juin et le lundi d'après, qui doit être le 10 ou un truc comme ça, je sais pas compter. Eh bien, j'y serai, donc envoyez-moi un DM sur Instagram, car maintenant vous me followez sur Instagram. Ou sur Twitter, où vous voulez, ou un mail, ou j'en sais rien. Et peut-être qu'on pourra se faire un truc, et il y aura Fab le week-end parce qu'il y a Lyon BD. Donc on pourra se dire coucou. Mais au-delà de ça, je voulais juste dire que, en fait, je kiffe Lyon, et des fois j'oublie, et j'irai parce qu'on se fait à la vie à Paris et tout, ouais. Et j'y reviens, et je suis là, oh yes! Je me sens vraiment à la maison quoi quand j'arrive à Lyon et c'est trop cool. Un jour je reviendrai.
C'est un sentiment excellent de se sentir à la maison.
C'est clair.
Et surtout quand t'as des bonnes quenelles de broche.
Où est-ce que tu te sens chez toi, Kalindi ?
Je me sens chez moi globalement, le Valois-Perret. Je déteste dire ça, mais je me sens très bien à Paris. J'ai grandi, je suis née dans le 15e arrondissement. Après on a pas mal bougé, mais on est toujours resté. On est toujours resté en Île-de-France et je m'y sens très à la maison, même si moi j'ai un besoin permanent de partir et que le voyage ça fait partie intégrante de ma vie. Et c'est un des trucs qui me motive à me lever le matin, c'est de me dire qu'au bout de quelques mois je vais partir en voyage. Tous les ans je fais au moins un gros voyage d'un mois, donc là ce sera mon seul cette année, je pars dans 2 mois au Vietnam. Bah non, je reviens du Japon aussi. Mais
oui, quand même, oui.
Je place ça là.
Mais voilà, c'est moi, j'aime être chez moi, mais j'ai toujours un besoin de constant de m'aérer la tronche en partant au bout du monde. Et voilà, mais globalement, le Valois-Perret, c'est très sympa. Écoute, on en dit beaucoup de mal à cause de Patrick Balkany, qui est donc notre gentil maire. que tout le monde aime
attends,
beaucoup.
Attends, Lyon, ils ont Gérard Collomb. Ils avaient.
On avait Gérard Collomb, ouais, c'était pas la faute.
Ah, t'as une autre raison de
est-ce
pas y aller.
On a beaucoup de.
C'était le frère de Christophe ou pas du
tout. Putain, mais. Est-ce que vous avez entendu la blague de Cédric Qu'est-ce qu'il a dit, quoi.
Non, attends, celle de Kalindi, elle était vachement mieux.
Celle de Kalindi était déjà odieuse.
Alors vraiment, j'ai pas entendu celle de Kalindi, tellement j'étais focus sur celle de Cédric.
Tu me racontes celle de Cédric et je te raconte celle de Kalindi.
Allez. Il y a des raisons de s'aérer. Hein Gérard Collomb.
C'est beaucoup mieux que la mienne, je suis dégoûtée.
C'est pas ça que j'ai dit, mais c'est ça que t'as compris. Ah, c'est trop bien. C'est comme si t'en avais fait une, toi aussi, on fait partie du club qui va nous.
Mais parce que toi, t'as dit quoi ?
Je sais plus, en plus.
Je suis sûre que t'as dit ça.
Je pense que c'est le pire podcast jamais enregistré.
Ah non, c'est le meilleur, du coup.
Kalindi a donc dit Gérard Collomb, le frère de Christophe.
Putain.
Envoyez un mail à soutien à Kalindi mademoiselle.com si vous trouvez que c'est une blague de qualité.
Mais non, mais moi-même, je me suis descendue en disant que c'était bien pourri du cul. Voilà.
Voilà.
Très bien. Est-ce qu'on passe au gros kiff de Kalindi ?
Pédalons la semoule. Moi, oui. Alors, on va essayer de faire vite. Je me suis découverte récemment une passion pour les horloges, et précisément celles qui viennent de Nouméa.
Sérieusement, mais sérieusement, Kalindi, mais...
Je sais pas pourquoi, j'y ai cru, c'est pas
parce que c'est plausible, c'est Kalindi. Elle arrive demain, elle dit, j'adore les horloges de Nouméa, t'es là,
ok. Trop forte, putain, c'est incroyable.
Mais ce que j'aime bien, c'est que j'ai vu Mimi faire un petit... Elle a acquiescé de la tête, genre, tout ceci est normal, je connais beaucoup de gens qui sont férus d'horloges de Nouméa.
D'horlogerie.
Donc, en vrai, oui, j'ai passé une semaine au Japon, et j'ai découvert un truc que j'ai adoré, et que je ne connaissais pas et dont on m'avait pourtant beaucoup parlé, ce sont les onsen, qui sont les, en fait des bains thermaux dont l'eau est parfois récupérée du volcan. Et en fait, elle a plein de vertus. Elle peut guérir certaines petites maladies de peau, elle assainit la peau de manière générale, et surtout, elle a des capacités à te faire te sentir bien, qui sont complètement... fatiguée, putain. Et donc, j'y suis allée avec ma maman, avec qui j'étais également en voyage au Japon. Donc, je suis partie avec mon mec et son mec.
Le mec de ta mère. C'est pas clair, ouais. Si on dirait que c'est le mec
ah
de
oui,
ton mec.
Le mec de ma mère.
Vu la BD dont il vient de nous parler. Bon.
Ouais, non, le mec de ma mère, qui d'ailleurs, je raconte à Mimi tout à l'heure, est asthmatique et n'a pas arrêté de faire comme ça pendant tout le voyage. Ce qui était insupportable.
Mais il le faisait sûrement.
Mais les onsen.
Oui, alors, mais les onsen. Je suis allée dans le onsen avec ma mère, ce qui était quand même... Alors, de prime abord, je me suis dit, est-ce que ça va être bizarre? Parce que j'aime ma mère d'amour très fort, et j'ai pris mes bains avec elle jusque très tard. C'est-à-dire que même ado, parfois, on prenait des bains ensemble, parce qu'on aimait bien se raconter des trucs en mangeant du saucisson dans une baignoire.
Quoi?
Je mange pas. Tu vois pourquoi j'ai pas tiqué sur les horloges de Nouméa? C'est parce que ça, c'est du premier degré, tu vois.
Non, mais parce que j'ai toujours mangé des plateaux de saucisson et de fromage en bas. Oui. Bref, et du coup, je me suis dit, bon, ça fait quand même quelques années que j'ai pas vu ma mère dans un contexte aussi dénudé.
Oui, parce que les onsen, c'est tout nu.
Voilà, j'allais y venir, mais merci de m'y amener. C'était agressif.
Pas sans rire.
C'était un peu agressif, pardon. Mais merci beaucoup, Mimi, je t'aime profondément, comme ma mère. Pareil.
Et... La dernière fois, c'était plus que ta mère.
Ah bah oui, bah
mais j'ai décelé que c'était une exagération.
Juste homme comme ma mère.
Et du coup, ce qui est formidable, c'est que donc on est tous tout nus. En revanche, c'est pas mixte. Hein. Les femmes de leur côté, les hommes de l'autre. Et ça se passe donc dans des grands bassins en pierre. C'est très dur de se concentrer. Pourquoi vous riez?
C'est formidable, on est tous tout nus.
Carlos, parce qu'il était pas tout nu. Carlos, il avait des chemises à fleurs.
Oh, je suis désolée d'avance.
Voilà.
Pour les gens qui nous écoutent.
Ah, alors j'essaye de garder.
Non, vas-y, tu dois suivre.
Du coup,
le
ce qui est formidable, c'est que donc tout le monde est tout nu. Les femmes de leur côté, les hommes du leur. Et donc, c'est souvent dans des grands espaces naturels. Donc moi, j'étais dans Tokyo, je pouvais pas sortir. Je suis allée dans un endroit qui était un peu excentré. Ça s'appelle Asakusa, et un joli petit endroit assez loin d'où j'étais, mais vraiment qui offre des espaces magnifiques. Et ce qui est top, et ce que j'ai beaucoup aimé au Japon d'ailleurs, c'est de voir le respect des jeunes pour les aînés et les personnes âgées. Et du coup, dans les onsen, je voyais les jeunes femmes se lever pour aller aider les grands-mères et leur frotter le dos, leur jeter des seaux d'eau dessus,
mais de façon sympa,
de manière sympathique et respectueuse.
Et donc, avec leur consentement.
Ah, bien sûr.
Jette-moi un seau d'eau, d'accord.
Une bonne sodo.
Une bonne sodomanie.
Ah putain.
Je quitte ce podcast.
Encore, envoyez encore un mail à soutien@kalindi.com.
Ce podcast n'est pas safe.
Pour ceux qui veulent pratiquer le onsen, comment ça se passe? Alors on arrive, on se déchausse comme partout au Japon quand on rentre dans un lieu d'intérieur pour voilà, préserver la propreté des lieux. Et du coup, on pénètre, on se lave, mais alors vraiment à fond. Hein. C'est-à-dire qu'on se lave avec des trucs, on se frotte. On est assis sur des petits bacs en pierre. C'est très joli. Très beau. Et alors là,
regarde-moi, capte oui, mon regard, ne lâche pas. Je suis là pour toi, Kalindi.
C'était très beau, donc voilà. Et donc, il y a plusieurs bassins. Et le mieux, ce qui est conseillé, c'est d'aller du moins chaud au plus chaud pour que le corps ait le temps de s'habituer. Et en fait, au début, ils te distribuent des notices en disant « Alors voilà, surtout, ne faites pas de plus de 10 minutes dans le premier bain parce que votre corps n'a vraiment pas l'habitude. » Et alors, en plus, avec ma mère, on a vu la tourista la veille. On s'est dit « Putain, si ça nous chauffe !»
Comment t'as la tourista au Japon ?
Parce que j'ai bouffé. À mon avis, c'est juste que j'ai mangé trop et pas que j'ai mangé un truc. C'est vraiment, on a déconné. Et en fait, moi, je suis fan de poulpe et j'en ai mangé vraiment beaucoup. Et la veille, j'avais mangé beaucoup de poulpe. Et du coup, j'avais peur que dans les onde scène, ça chauffe mes intestins et qu'il y a un accident dans les bains.
Glamour.
Je pense que t'aurais été bannie du pays entier.
Très probablement. Ils pensent déjà que nous sommes des gens très sales.
Ce qui est le cas.
Ce qui est le cas.
On enlève pas nos chaussures avant d'entrer. Donc
on les a même sur le canapé. C'est vraiment.
Oui, c'est clair.
Et voilà. Et donc après, on va du bain le moins chaud au bain le plus chaud. Et t'as différents types de bains. T'en as avec des gaz spéciaux. Je sais pas, je me souviens plus comment ça s'appelle. Puis c'était tout en anglais. Et voilà, c'était formidable. Et donc ce qui est conseillé, c'est de faire un bain très chaud, puis un bain glacé, puis un bain très chaud, puis un bain glacé. Et c'est formidable de voir toutes ces petites mamies qui viennent. Moi, franchement, j'étais au spectacle, j'ai trouvé trop mignonne. Elle venait comme ça, elle claudiquait un peu, puis elle se mettait dans les bancs, puis alors elles essayaient de nous parler en japonais. Bon, c'était du coup complexe vu que nous n'avons que très peu de notions.
Ils sont trop mignons dans les onsen, ils papotent et tout.
Ouais, ils papotent et elle voulait absolument papoter avec nous, donc ouais. On a commencé à essayer de papoter avec une dame, ce qui était vraiment compliqué car aucune de nous ne parlait la langue de l'autre. Et en fait, au début, il y a forcément la crainte de la nudité devant tous les gens que tu connais pas. Sauf qu'en fait, elle s'évapore au bout de quelques secondes parce que vraiment tout le monde est hyper à l'aise avec sa nudité et personne se regarde, donc ou du moins jamais avec concupiscence ni quoi que ce soit, et du coup c'est extrêmement agréable. T'es là, t'as les jambes écartées dans l'eau chaude, tu te secoues les fesses, c'est très sacré.
Ah voilà. Mais attends, t'as fait des bains glacés du coup?
Ouais.
T'arrives à faire
t'as
ça?
Fait ça, mais.
Ah oui, non, mais en fait. Non, mais attendez, les gars.
Même la douche froide en sortant du sauna, j'aime pas. Tu vois,
sérieux?
Même boire un verre d'eau trop froide, j'aime pas.
Est-ce que tu bois des granités parfois?
Non.
Est-ce que tu manges des glaces?
Non.
Bon, t'es juste des dents pétées, en fait.
Non, j'aime pas le froid. C'est froid, c'est pas agréable, c'est froid.
Non, mais il tient quelque chose, hein. Il tient quelque chose. Mais du
bref,
coup,
mais
du,
ouais,
du
le,
coup,
le bain glacé.
Le bain glacé, j'aime beaucoup ça, parce que déjà, quand t'as passé 20 minutes dans 40 degrés, franchement, t'as qu'une envie, c'est de te rafraîchir. Et comme t'as très chaud, l'eau glacée paraît pas si gelée que ça. Elle te rafraîchit juste la tronche, mais en soi, ça va. Et puis, en plus, je pense à mon cul et je me dis, vas-y, ça va te raffermir le cul, ça va te raffermir le cul. Bon, en fait, ça te raffermit pas le cul en une fois, quoi. Donc,
envoyer des encouragements à raffermir le cul avec Alindy. Mademoiselle.com.
Non, mais c'est vrai, tu sais, le matin, quand je sors de la douche, je me dis, allez, vas-y, mets-toi le cul dans l'eau glacée, ça va te raffermir le fion. Et vraiment, chaque jour, c'est un échec.
Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ou?
Ah, les patineurs, ils ont le cul tout rebondi parce qu'ils tombent tout le temps le cul sur la glace. Alors, ça doit marcher.
C'est pas du tout parce que c'est des sportifs professionnels.
Non, je pense pas, non.
Et alors non, bien sûr, le froid, ça te permet de, je crois que ça agit sur sur le fait de
on demandera un médecin.
Voilà, on demandera, vous savez quoi, ouais. On appellera quelqu'un, mais en gros, c'est sûr, ça raffermit
ouais, c'est plus
ça raffermit les
cardiaques et machin, t'as un truc
et
de
en plus
nettoyage,
c'est hyper bon pour le cœur, ouais. ça te fait taper un peu le cœur et ça active la pompe. Voilà, s'il y a des médecins qui nous écoutent, j'espère qu'ils ne seront pas outrés par nos propos très
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 sont déjà en train d'envoyer un mail à Louise pour dire c'est scandaleux ce que vous racontez.
Voilà, donc c'était vraiment un gros kiff. J'ai énormément passé j'ai beaucoup aimé passer du temps toute nue à barboter dans l'eau chaude, et j'ai lu dans le Lonely Planet, qui est le guide dont je me sépare jamais quand je pars en voyage, il y avait écrit, et je les crois, qui n'a pas connu la satisfaction du onsen ne connaît pas le Japon. Je me suis dit, bon, je serais donc une grosse bolo si j'avais pas fait les onsen, et je l'ai fait. Et après, j'ai bu un petit thé sur la terrasse japonaise et j'ai essayé de faire une story et je me suis fait engueuler, donc voilà. Car les téléphones,
oui, c'est
étaient
vrai,
interdits,
t'es pas censé l'avoir, ouais. Moi, c'est mon truc, enfin, c'était mon truc préféré, les onsen. J'en ai fait genre 12.
Ouais.
J'en pouvais plus, quoi. C'était une
c'est
vraie drogue.
Très très bien.
Ah, oh, c'est abusé, quoi. Abusé de bien.
Moi, j'en ai pas fait, donc j'imagine que je n'ai pas fait le Japon. Faudrait que j'y retourne. Je vais lancer une cagnotte
et les salles d'arcade
pour me renvoyer au Japon afin que je découvre les onsen. Restez connectés à mon
c'est
compte Instagram, je vous mettrai le lien.
Depuis que je suis chez Mademoiselle, j'ai l'impression d'être entourée de gens qui sont passionnés du Japon et moi, je suis vraiment la seule bolosse qui a aucune notion de rien du tout de la culture japonaise.
Bah, c'est pas grave.
J'allais digresser sur les bains glacés, mais ça fait 1h13 qu'on enregistre, donc je vais passer à mon gros kiff. Eh bien, mon gros kiff, c'est les petites étapes de la vie. Ok, Bernard Verbeek.
Mystérieux. Est-ce que vous sentez hypé là? Attention.
Après les horloges de Nouméa, les petites étapes de la vie.
Alors attendez, je vous préviens, ce qui fait 36-15 My Life tout du long.
C'est les meilleurs.
En gros, ça fait un an et demi que j'habite à Paris, ça fait un an et demi que je suis chez Mademoiselle. Et je suis dans un appart en coloc depuis un an. Et j'ai une chambre qui est petite comparée à la celle de mes colocs. Et dans cette chambre, il y avait une armoire immense, vraiment. Elle est grande, elle fait 2 mètres par 1 mètre 20. Elle est D'accord. gigantesque et elle prend énormément de place alors que je mets pas tant de choses dedans. Et en fait, donc ça fait globalement un an que je me plains de cette armoire qui est dans ma chambre et qui prend toute la place. Et il y a pas très longtemps, il y avait mon mec qui était là et j'ai dit vas-y, viens, ça me saoule. Je suis arrivée à saturation. J'ai décidé d'enlever cette armoire. Ça faisait vraiment très longtemps que je faisais des listes de trucs qu'il fallait que je fasse chez moi, et notamment enlever cette armoire.
Dégager et en fait, cette grosse armoire qui
fait. Il y a un moment donné, il faut passer à l'étape de après Exactement. La liste, fais les choses. Et en fait, ça faisait tellement longtemps que je processais ce truc de il faut que j'enlève cette armoire, il faut que j'enlève cette armoire, que j'étais là genre non, mais je vais la passer à un pote, machin, je sais pas quoi. Non, en fait, elle dégage. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
ouais,
où tes potes ils sont là, oui, mais alors du coup, il faut que je vienne la chercher, il me faut un van, machin, on est à Paris, personne n'a voiture, niquez-vous. Et donc. Et donc, j'ai décidé,
très,
ça
très
y est,
bonne, saturation. Très très bonne réflexion. Hein. Ah, t'es au-delà de la saturation en ce moment-là, tu
peux. Ouais, c'est ça, c'était. J'en pouvais plus.
T'es dans la liberté. Tu te libères de tout le problème.
Et donc, la petite étape, c'était enlever cette armoire. Ensuite, il y avait une autre petite étape, c'était commander une commode pour ranger mes affaires quand même, parce qu'elle servait un peu à ranger des trucs. Et en fait, j'ai une liste que j'ai finalement accrochée à une porte chez moi, et où je suis là. Donc ça, c'est tous les petits trucs que j'ai à faire. Genre, j'ai trié des fringues, il faut absolument que j'aille faire un vide-dressing pour les jarter, et pour que vraiment, genre, je m'en fous, je les vends à 50 centimes ou 1 euro, on s'en bat les couilles. Il faut que ça dégage, et que j'arrive à faire des trucs de ma vie. Et en fait, c'est con, mais genre, cette armoire, elle prenait de la place, et maintenant, il y a ma commode qui est à hauteur de moi, et où en fait, je vais juste mettre ma chaîne Hi-Fi, et je vais m'acheter une platine pour mixer, et pour m'entraîner à mixer. Et en fait, tu vois, c'est des trucs cons de la vie où tu c'est teubé, enfin genre vraiment enlever cette armoire, ça m'a pris 1h15 à tout casser, tu vois, genre c'était chiant, on comprenait pas exactement comment elle était faite, mais on la tège et en fait en une semaine et demie c'est une nouvelle opportunité dans ma vie alors que juste j'ai changé un meuble. C'est teubé. Et donc voilà, donc mon gros kiff c'est ça, c'est,
ah non, mais c'est ouf ce que tu dis, tellement vrai,
faire des petits trucs en fait,
les petits ruisseaux et les grandes rivières.
Et en fait, c'est un truc dont je trouve on se rend pas compte. Enfin, tu vois, genre, la dernière fois, je parlais de Casey Neistat qui fait son gros projet, là, le 368. Et en fait, t'as l'impression que le gars, il s'est réveillé un matin, il a fait « Ok, je vais faire un projet avec une entreprise. » Et en fait, on va faire ça. Et en fait, il est déjà en train de faire des travaux pour faire une boutique, pour faire un podcast. Et il a déjà sorti un podcast. Et bref. Et du coup, je suis là. Donc, tu vois ses vidéos tous les jours. Il est là « Ouais, super, là, on a fait ça. Et là, on a fait ça. » Et je suis là. Tu fais tellement de choses tout le temps, enfin genre, comment c'est possible? Moi, je mets un an et demi à enlever une armoire, et toi, tu fais des trucs tout le temps. Et en fait, je pense qu'on voit pas justement les petites étapes qui ont été, bah en fait déjà, il a galéré parce qu'il avait une entreprise avant qu'il a dû revendre, et en fait pendant un long moment, il faisait pas grand chose, et du coup en fait, ce long moment, c'était un moment de transition et dont il avait besoin. Et je trouve que, enfin moi, je suis pas mal de créateurs sur internet et d'influenceurs, on peut dire, et t'as l'impression que, enfin tu vois, c'est le fameux Instagram versus reality, quoi, t'as l'impression que leur vie est trop bien et tout, et en fait juste il y a les petites étapes qui font que t'arrives à faire des gros trucs, et bon, j'ai pas encore fait le gros truc parce que mon prochain salaire servira à payer la platine en question, mais en tout cas ouais, c'est un truc, tu vois, genre apprendre à mixer, l'année dernière je savais pas le faire, grâce à Mademoiselle je sais le faire maintenant, et là ça fait un an. C'est l'anniversaire de nos 1 an de première grosse teuf.
Bravo, bon anniversaire.
Et en
tu
fait,
vas
du coup,
faire, tu as fait un tabac à la grosse teuf il y a quelques jours. Le timing.
Le timing. En vrai, la grosse teuf, c'est demain quand on enregistre. et du coup, ouais, c'est des petites étapes et des trucs où je me dis, en fait, ça ouvre plein de nouvelles opportunités pour très peu, ouais. très peu de choses. Voilà, je trouvais ça cool.
C'est clair.
Tain, t'es un peu notre Bravo. Sage. T'es un peu notre sage
Tellement.
De ce podcast.
Et t'as même pas les cheveux frisés.
J'en étais sûre. Raconte cette anecdote, parce que les gens vont pas comprendre.
Je dis toujours que les gens frisés sont très sages et qu'ils cachent sous leur boucle souple la sagesse, justement, des gens frisés.
Même Denis Brognard.
Mais ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Elle l'a dit une fois à Aude, qui est une ancienne stagiaire de Mademoiselle, qui travaillait à la régie. A few moments later. Voilà. Cette anecdote de... un peu mal racontée, mais c'est la vie. Je suis enrhumée,
laissez-moi. En tout cas, c'était très inspirant ce que tu as dit, je trouve.
Grave. Ah, oui,
ça m'inspire grave parce que moi, je suis du genre, comme toi, apparemment à procrastiner énormément, surtout quand il s'agit de faire des choses dans une maison. Par exemple, ça fait là 5 jours que... Non, ça fait 3 jours que mon mec est parti au Maroc et c'est très rare que je me retrouve seule. Et là, je me suis dit, ouais, il va pas être là, je vais faire plein de machines, je vais laver le miroir parce que je me... En me maquillant, je
mets
partout sur le... Et vraiment, ça fait 3 jours que je laisse encore plus de choses traîner littéralement partout. Vraiment,
t'es comme un chat, quoi. Tu vas niquer l'appart pour quand tu reviens.
Et là, je suis stressée par l'heure qui tourne parce que je me dis, putain, il faut que j'arrange l'appart, il faut que j'aille ranger l'appart, il faut que j'aille ranger l'appart.
Mais non, mais te déstresse pas.
C'est pour ça qu'elle est passionnée par les horloges.
Les horloges numéro.
Oh là 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 là, il faut qu'on écrive des films.
Oui, je pensais. La prochaine étape, après, laisse-moi kiffer, on écrit un long métrage.
Le court-métrage de la digression.
Minelle en peut plus, j'ai l'impression qu'elle va décéder.
Je suis très fatiguée.
Mais il faut dire que c'était particulièrement éprouvant.
Oui, j'ai dit, je reprends toute l'énergie qui me reste et je la mets dans ce podcast. Ce podcast touche à sa fin, je n'ai donc plus d'énergie.
Merci pour ton énergie, Mimi.
De rien. Merci
pour ta belle énergie.
Merci à tous les trois pour ce podcast qui était un peu compliqué à démarrer, mais je pense qu'on a quand même dit des choses intéressantes.
Ah, c'était trop bien.
Je ne sais pas. Entrecoupé de beaucoup de pouffements de
rire. Et beaucoup de rire, voilà. Désolée d'avance si vous nous avez écouté et que vous avez trouvé que vraiment on riait pour rien. Je pense qu'on est tous très fatigués. Donc...
On a quand même juste ri parce qu'il y avait anus dans le pseudo du pote de Cédric. Oui. Donc c'est la fin, enfin, c'est le degré zéro de l'humour, quoi.
C'est vrai.
Ah bah oui.
Puis... Maman, j'aime bien.
Voilà.
C'est peut-être une preuve que c'est le degré zéro de l'humour et la
fois,
fin de toute chose.
Pose-toi des questions.
Écoutez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Mademoiselle comme d'habitude et à nous envoyer des messages suite à l'écoute de ce podcast, savoir si vous avez ri dans la rue, car ça nous fait toujours plaisir.
Oui.
Et
surtout si vous êtes en Islande.
Et surtout, touchez-vous bien le kikif jusqu'à la prochaine fois.
Ouais.
Touchez-vous bien le kikif à Reykjavik.
Je refuse de dire cette phrase.
T'es vraiment la pire meuf.